Chapitre 4. Le siège de Florence. Léon X mourut le 1er décembre 1521, un an après Raphaël. Son successeur, l'austère Adrien VI, qui ne connaissait en fait de peinture que celle de Van Eyck et d'Albert Dürer, ne songea qu'à la prospérité de l'Église. Né à Utrecht, il avait été précepteur de Charles d'Autriche, puis cardinal à Tortose, puis régent d'Espagne pendant l'absence de son ancien élève, devenu roi. Au pontificat, il garda ses mœurs simples, et s'il fut l'ami des savants, il ne se soucia point du tout de la gloire, ni même de la vie des artistes. À Rome, il arrêta tous les grands projets d'art, à Florence, il les ralentit. En 1523, ce fut Clément VII qui lui succéda. Un nouveau Médicis, le cardinal dont il était question tout à l'heure, cousin de Léon X. Clément eut à faire face à de grandes difficultés politiques. La guerre, une fois de plus, déchira l'Italie. François Ier réclamait Naples, Charles Quint le Milanais. Le connétable de Bourbon, sans interrompre la marche de ses armées à Florence, se porta jusque sous les murs de Rome. Tout à coup, il se précipite, entraîne toute l'infanterie, artillerie, bagages. Malgré la défense de Clément VII, il donne l'assaut. Il saisit une échelle. Une balle l'atteint, il se sent mort. Clément VII a le temps de s'enfuir du Vatican dans le château. Du long corridor qui faisait la communication, il vit l'affreuse exécution, 7 ou 8 000 Romains tués à coups de pique et de hallebarde. Jamais scène plus atroce, plus épouvantable carnaval de mort. Clément VII s'était évadé de Rome, déguisé en marchand, jusqu'à Orvieto. Il fut pris par les impériaux. Mais pendant sa captivité, le parti républicain de Florence avait chassé de leur pouvoir les Médicis indignes. C'est afin de rétablir sa famille et dans son gouvernement que Clément VII se réconcilia avec Charles Quint, qu'il dut couronner à Bologne. Mais le peuple de Florence repoussa les ordres mêmes de Charles Quint en faveur de ses anciens maîtres qui, sous l'éclat des lettres et des arts, avaient étouffé toute liberté. Il y eut conflit, guerre et, devant la ville même, un siège dirigé par le pape. Florence n'avait pas attendu l'heure du péril pour préparer sa défense, à laquelle Michel-Ange participa de tout son cœur. Il avait alors 50 ans. Son caractère, toujours hautain, difficile, ne s'était point apaisé avec l'âge. Il vivait à l'écart du monde, attaché à son travail. Seule une nécessité impérieuse, celle de sauvegarder les droits de sa patrie à l'indépendance, pouvait le tirer de son recueillement. Il détestait d'ailleurs les derniers Médicis, leur arrogance et leur tyrannie. Les fortifications de Florence étaient insuffisantes, en mauvais état. Michel-Ange consentit, le 6 avril 1529, sous le titre de gouverneur et commissaire général, à les améliorer ou à les achever. Il fortifia la cité sur plusieurs points, entoura le mont Sarmignato de bastions qu'il ne composa pas de gazon et de broussailles, comme cela se pratiquait d'ordinaire, mais en bois de châtaignier et de chêne. Même il remplaça le gazon par des briques faites avec de la bourre et de la fiente d'animaux. Vasari. En avril et en mai, il se rendit à Livourne, en juin à Pise, pour les travaux de la citadelle et pour les fortifications de l'Arno. Le mois suivant, il partit pour Ferrare, où la seigneurie de Florence l'avait prié d'aller étudier le nouveau genre de fortification employé par le duc Alphonse. En septembre, il dirigeait, à Arezzo, les travaux de défense. Vauban admira plus tard ces noires et sévères fortifications qui entourent la plus charmante des collines, Sarmignato. Vasari rapporte que, durant les 6 mois qui précédèrent le siège, Michel-Ange demeura dans le fort assidûment, à son poste de surveillance et d'organisation. Lorsqu'il descendait dans la ville, c'était pour travailler furtivement au statut de San Lorenzo. Cependant, des sentiments de rivalité, d'envie, des divergences d'opinion divisèrent l'état-major des défenseurs de Florence. Quelques-uns, bientôt, soupçonnèrent de perfidie puis de trahison réelle le général en chef, le condottiere Malatesta Baglione. Michel-Ange, emporté par sa franchise, dénonça bravement à la seigneurie les graves dangers que l'on courait. Et il réclama la destitution de Malatès, lequel, en effet, ne devait pas tarder à livrer la ville au pape. Le gonfalonier Carducci, au lieu de remercier Michel-Ange, lui répondit par des réprimandes et par des injures. Il lui reprocha de toujours trembler aux heures de péril et de suspecter vilainement la loyauté de ses compatriotes. Au lieu de l'outrager ainsi, Carducci eut mieux fait d'ouvrir l'oreille au conseil de Michel-Ange, car lorsque les Médicis rentrèrent, Carducci fut décapité. Michel-Ange, redoutant aussitôt la rancune du généralissime Malatès, qui allait apprendre sa dénonciation, s'esquiva vers Ferrare, accompagné de son élève Minci et de son ami Rodolfo Corsini. « J'avais bien la résolution, dit-il dans une lettre à Baptista della Palla, le 25 septembre 1529, d'attendre sans crainte la fin de la guerre. Mais le mardi matin, 21 septembre, quelqu'un vint hors la porte San Nicolo, où j'étais au bastion. Il me confia que, si je voulais sauver ma vie, je ne pouvais rester plus longtemps à Florence. Il m'accompagna jusqu'à ma maison, m'amena des chevaux et ne me laissa qu'après m'avoir vu hors de Florence. » Michel-Ange s'était fait coudre 12 000 florins d'or dans 3 chemises piquées en forme de jupon. Si c'était Dieu ou le diable qui me poussait, je ne sais pas. Ces travaux d'ingénieur, si merveilleusement conçus et exécutés en si peu de temps, avaient soulevé, bien au-delà de la Toscane, une admiration profonde. Partout, le peuple voulut honorer en lui le défenseur de l'indépendance de sa patrie. Malgré ses efforts, il ne put se dérober aux ovations de la foule, aux prières du duc de Ferrare, lequel le logea dans son palais. À Venise, son voyage se continua triomphal. Il voulait passer en France. Il écrit à Baptista della Palla, agent de François Ier en Italie, pour l'achat d'œuvres d'art. « Je me suis informé, très cher ami, du chemin à prendre vers la France. On m'a dit que, pour y aller, il fallait passer par les pays allemands. » Cela est dangereux, difficile pour moi. Avez-vous toujours l'intention d'y aller vous-même? Je vous prie de me renseigner et de me dire où vous désirez que je vous attende. Nous partirons ensemble. Je vous supplie de me répondre, car je brûle du désir de partir. Si vous avez renoncé au voyage, faites-le-moi savoir, afin que je parte tout seul, coûte que coûte. » L'ambassadeur de France à Venise, Lazare de Baïf, s'empressa de demander à François Ier et au connétable de Montmorency les intentions de Michel-Ange. Le roi offrit avec empressement à celui-ci une pension et une maison. Mais pendant cet échange de lettres, Michel-Ange s'était impatienté. De Venise, il s'était retiré sans bruit à la Giudecca pour y vivre solitaire selon son habitude. De là, il était retourné à Florence malgré les plus grands dangers, car la seigneurie avait, par un décret du 30 septembre, déclaré rebelle Buonarroti et ses compagnons. Mais le peuple le réclamait. Baptista della Palla le suppliait de revenir. « Tous vos amis, sans distinction d'opinion, tous d'une seule voix, vous exhortent à rentrer ici pour conserver votre vie, votre patrie, vos amis, vos biens et votre honneur, et pour jouir des temps nouveaux que vous avez si ardemment souhaités. » Condive y ajoute, convaincu par la considération qu'il professait pour ceux qui le suppliaient ainsi, poussé surtout par son patriotisme, il demanda un sauf-conduit et, au péril de sa vie, il rentra dans Florence. Cependant, Clément VII marche à travers la Toscane. Pérouse, Cortone, Arezzo lui ouvrent leurs portes. En octobre, il parvient sous les murs de Florence, essayant d'abord de s'emparer de San Miniato, qui commande la ville. Michel-Ange avait repris son poste de combat. Il fit une seconde fois fortifier la colline, inventa de nouveaux engins et sauva, assure-t-on, le campanile en le garnissant de balles de laine et de matelas suspendus à des cordes. Il dit lui-même: « Lorsque le pape et les Espagnols vinrent devant Florence mettre le siège, ils furent longtemps arrêtés par les machines que j'avais installées sur les tours. Une nuit, je faisais envelopper les murs de sacs de laine, une autre, je faisais creuser des fossés où l'on jetait de la poudre, dont le feu brûlait les castillans et dispersait leurs membres déchirés. Voilà à quoi sert la peinture. Elle sert pour les instruments de guerre, pour donner une forme convenable aux bombardes et aux arquebuses, pour bâtir des ponts, confectionner des échelles, surtout pour dresser des plans de forteresses, de bastions, de mines et de contre-mines. On a conservé de Michel-Ange un livre d'esquisses qui renferme plus de 150 dessins de sa main. Les derniers feuillets de ce carnet, dont la plupart contiennent des études d'après les constructions de Brunelleschi, de Bramante et de la plupart des architectes des XIVe, XVe et XVIe siècles, renferment une instruction rédigée par lui-même pour fondre une pièce d'artillerie et le dessin de cette pièce. Ce livre, commencé sans doute pendant la première partie de sa vie, il le perdit probablement pendant le siège de Florence. Il le perdit probablement pendant le siège de Florence. 32 ans plus tard, lorsque Vasari lui demanda, de la part du duc Combes, le plan du fameux escalier de la bibliothèque de Saint-Laurent, il ne se le rappela que comme on se rappelle un songe. Le plan de cet escalier figure dans ce livre. Mais les destins s'accomplirent. Dans Florence, tous les partis avaient oublié la cause commune. Presque tous les riches qui, sous la domination des Médicis, avaient perdu le goût et les vertus de la liberté, réclamaient, soit par ambition, soit par servilité, le retour de leur maître. La famine vint s'ajouter à la misère des complots. Et le 2 août 1530, Malatès à Baglioni, ainsi que l'avaient trop bien prévu les patriotes, trahit. Il livra la ville au commissaire du pape, Baccio Valori. Alors, naturellement, vengeance de Clément VII. Les meilleurs amis de Michel-Ange, parmi lesquels Baptiste de la Palle, furent frappés les premiers, mis à mort, exilés ou dépouillés de leurs biens. Michel-Ange était exclu de l'amnistie, il se cacha. Clément VII, pourtant, avait besoin de lui. « Michel-Ange a tort, dit-il en haussant les épaules, je ne lui ai jamais fait aucun mal. » Et il lui ordonna de reprendre son travail au tombeau des Médicis, lui promettant qu'il serait traité avec beaucoup d'égards. Sa famille ne le tourmentait pas de moins de récriminations et d'exigences. Elle l'occupait autant et plus que ses travaux d'art. Son père, un beau jour, quitte Florence en accusant le sculpteur de le chasser. Celui-ci lui écrit alors humblement, avec l'affection la plus touchante. Très cher père, j'ai été surpris hier de ne plus vous trouver à la maison. Maintenant, on m'apprend que vous avez à vous plaindre de moi et que vous dites que c'est moi qui vous ai chassé. Je m'étonne encore plus. Depuis le jour de ma naissance jusqu'à celui d'aujourd'hui, j'ai l'assurance de n'avoir jamais tenté la moindre chose qui pût vous déplaire. Toutes mes peines, c'est par amour de vous que je les ai supportées. J'ai toujours pris vos intérêts. Il y a peu de jours, je vous promettais de consacrer à vous toutes mes forces tant que je vivrai. Je vous le promets de nouveau. Je suis stupéfait que vous ayez si vite oublié tout cela. Depuis 30 ans, vous et vos fils, vous m'avez mis à l'épreuve et vous savez que constamment, j'ai été bon en pensée et en action. Pourquoi dites-vous partout que je vous ai chassé? Ne sentez-vous pas quelle mauvaise réputation vous attirez sur moi? Aucun souci ne me manque à présent. J'en ai eu tant à cause de vous. Et vous m'en récompensez bien. Après tout, qu'il en soit ce qu'il voudra. Je veux, afin de vous en demander pardon, me persuader à moi-même que je n'ai pas cessé de vous causer honte et dommage. Pardonnez-moi donc, comme à un fils ayant toujours mal vécu et vous ayant fait tout le mal possible. Cependant, ne me donnez pas cette réputation que je vous ai chassée. Car ma réputation m'importe plus que vous ne croyez. Malgré tout, je suis votre fils. » Le bonhomme de père sévère se tenait coi pendant quelque temps. Puis, soudain, il accusait le sculpteur de l'avoir volé. Et le sculpteur, sévère à son tour, lui répondait violemment « Je ne sais plus ce que vous voulez de moi. S'il vous déplaît que je vive, vous avez certes trouvé le moyen de vous débarrasser de moi, et bientôt, vous rentrerez en possession des clés du trésor que je garde. Vous ferez bien, car, on le sait à Florence, vous êtes un homme immensément riche, je vous ai toujours volé et je mérite grandement d'être châtié. Proclamez à mon sujet tout ce que vous voudrez, mais ne m'écrivez plus, laissez-moi travailler. Il faut bien que je vous rappelle tout ce que vous avez reçu de moi depuis 25 ans. Je ne voulais pas le dire, mais à la fin, j'y suis forcé. Prenez garde, on ne meurt qu'une fois, et ensuite, pour réparer les injustices qu'on a commises, on ne revient plus. Et vous, pour en commettre, vous avez attendu la veille de la mort. Dieu vous aide. Néanmoins, dès que la révolution contre les Médicis éclate à Florence, il retrouve dans son cœur ces mêmes sentiments de tendresse dévoués envers sa famille. Ce n'est pas de lui, de sa sécurité qu'il se préoccupe, au contraire, il va donner tout son temps et toute sa personne aux intérêts de sa patrie. Aux siens, il recommande la prudence. Soyez, comme à l'époque de la peste, les premiers à fuir. La vie vaut plus que la fortune. Restez en repos, ne vous faites point d'ennemis, ne vous confiez à personne sauf à Dieu. Soyez discret vis-à-vis des gens de votre voisinage, vis-à-vis surtout des inconnus. Occupez-vous seulement de vos propres affaires, négligez tout le reste. Tandis qu'il prenait part à la révolution de Florence, Michel-Ange achevait la Leda. Pendant son séjour à Ferrare, il promit au duc Alphonse de la lui envoyer pour reconnaître son hospitalité. Mais le tableau, au lieu d'aller à Ferrare, fut dirigé en France. Voici comment. Le duc Alphonse avait prié un de ses gentilshommes de se rendre auprès de l'artiste afin d'en recevoir son ouvrage. Michel-Ange accueillit gracieusement le messager et lui montra sa peinture, l'aida embrassant Jupiter, transformé en cygne. « Oh ! S'écria le prétentieux messager, cela est bien peu de chose. Quel est donc votre métier ? Interrompit Michel-Ange. « Je suis marchand, répondit l'autre, donnant ainsi à entendre qu'il méprisait l'industrie des Florentins. Michel-Ange le comprit très bien. Aussitôt irrité, comme à l'ordinaire, il lui répliqua « Eh bien, messire marchand, vous ferez aujourd'hui pour votre patron un mauvais marché. Sortez d'ici. » Et il offrit son tableau à son élève Antonio Minci, qui, ayant deux sœurs à marier, s'était recommandé à sa générosité. Minci apporta donc cette peinture en France, où François Ier, pour la placer à Fontainebleau, l'acheta. Plus tard, sous Louis XIV, Desnoyers, la trouvant licencieuse, la fit brûler. La Leda est le sujet propre de la Renaissance. Vinci, Michel-Ange, Corrège y ont lutté, élevant ce sujet à la sublime idée de l'absorption de la nature. Un imbécile, le ministre Desnoyers, détruisit la Leda de Michel-Ange comme objet licencieux. Michel-Ange est ici, comme partout, merveilleusement noble et digne. Vinci, lui, a vu le fond même de la question scientifique. C'est le prédécesseur direct de Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire. Michelet. Un peu plus tard, Michel-Ange peignit pour Bartolomeo Bettini un carton de Vénus caressée par l'amour, dont Portomo fit un tableau qui est aux Uffizi. D'autres dessins, d'une impudeur grandiose et sévère, sont probablement de la même époque. Charles Blanc décrit l'un d'eux où l'on voit les transports d'une femme violée qui se débat, robuste, contre un ravisseur plus robuste, mais non sans exprimer un involontaire sentiment de bonheur et d'orgueil. Romain Rolland.